Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal du Sud de Saint-Paul.
L'artiste musicien Idengo Delcato, arrêté dimanche à Butembo, ne sera pas jugé à Beni comme initialement prévu. Il a été transféré aujourd'hui à l'auditorat supérieur militaire du Nord Kivu, basé à Goma. 7 créseurs artisanaux morts ensevelis dans un éboulement de terre hier à Chabunda au sud Kivu. Les recherches se poursuivent pour retrouver 5 autres personnes encore enfouies dans le sous-sol. Après la détection d'un cas de résurgence d'Ebola à Beni, une centaine de contacts ont été signalés par l'équipe de riposte sur le terrain. Comment l'UNICEF et les autres partenaires appuient-ils le gouvernement dans la riposte et quelle est l'ampleur de la maladie? Notre invité, le docteur Ono Baïso, chef d'antenne de l'UNICEF à Beni, nous répondra. Bonsoir à tous. Cette édition part du Nord Kivu. L'artiste musicien Delphin Viniwasiki, alias Idengo Delcato, arrêté dimanche par les services de renseignement à Butembo, ne sera pas jugé à Beni comme initialement prévu. Il a été transféré ce mardi à l'auditorat supérieur militaire du Nord Kivu, basé à Goma, après 2 nuits de détention à la prison centrale de Kangbayi de Beni. Martial Papimukeba pour les détails.
Le transfert à Goma de Idengo Delcato est intervenu pendant que l'ouverture de son procès public était annoncée pour ce mardi à Beni. Selon des sources judiciaires, la justice militaire a pris cette décision pour des raisons de sécurité publique. Plusieurs messages ont circulé sur les réseaux sociaux appelant à saboter les audiences de ces procès. D'après la même source, c'est l'auditorat supérieur militaire du Nord Kivu qui présentera Idengo Delcato devant un tribunal militaire. Ce musicien est poursuivi pour incitation à s'armer contre l'autorité de l'État et la démoralisation des forces armées et de la police. Il est accusé d'avoir enregistré des messages audiovisuels appelant la population de Beni à s'attaquer aux militaires, policiers et leurs familles à partir du 15 octobre 2021. Rappelons que dans une autre affaire cette année, l'artiste musicien Idengo Delcato était poursuivi pour offense au chef de l'État et faux bruit dans sa chanson intitulée « Politicien escroc » dans laquelle il dénonçait leur promesse non tenue, mais il avait été acquitté par le tribunal de paix de Beni en mars 2021. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, le général Silvano Kasongo est attendu au procès de l'assassinat de Rossi Mukendi pour témoigner sur demande des parties civiles. La cour militaire de Kinshasa Matete a fait une descente sur les lieux du crime à Lemba afin de reconstituer les faits. L'audience publique d'hier lundi a tourné autour de la dotation des munitions ayant servi à la commission du crime le 24 février 2018. Qui avait doté l'escadron mobile du Mont Amba des munitions? Y a-t-il eu un document signé pour cette dotation? C'est parmi des questions ayant fait l'objet de cette audience au cours de laquelle les prévenus ont été confrontés. À la prochaine audience, le commissaire provincial de Kinshasa devra également faire sa déposition comme renseignant. On écoute à ces sujets un des avocats des parties civiles, maître Toujibikile Dianishai. Il est au micro de Jeff Ngoy.
Le commissaire principal adjoint, M. Bitema Wabitema, a fait sa déposition en ce qui concerne la dotation des munitions pour la manifestation du 24 février 2018. D'entrée de jeu, M. Bitema Wabitema soutient qu'il n'avait jamais doté à l'escadron mobile commandé par Mme Karine Lokeso des munitions d'exercice ou des balles réelles. Il affirme avoir doté au commissariat district de Mouamba seulement les gaz lacrymogènes qui devraient être utilisés ces jours-là. De son côté, Madame Karine Lokeso, commandant escadron mobile, affirme que il avait reçu une dotation de Monsieur Bitema Wabitema. À son tour, Monsieur Bitema Wabitema exige à Madame Karine de produire un document qu'ils avaient signé conjointement à l'occasion de cette dotation. Madame Karine soutient que cette dotation a eu lieu de main en main sans document.
Direction le sud Kivu, 7 créseurs artisanaux de l'or sont morts ensevelis dans un éboulement des terres. Les faits ont eu lieu hier lundi à Chabunda dans le groupement de Baliga. Des sources concordantes affirment que les recherches se poursuivent pour retrouver 5 autres personnes qui sont enfouies dans le sol jusqu'en ce moment. Un rescapé a été conduit dans une structure de santé pour des soins urgents. Des détails avec Michel Chirimwami.
Les recherches se poursuivent pour retrouver les restes des personnes disparues à un endroit appelé chez Mikungu. C'est à 8 heures de marche de Mulungu. La nouvelle dynamique de la société civile de Chabunda qui donne l'alarme affirme que les services de l'État pour l'encadrement des creuseurs sont jugés insuffisants et beaucoup de creuseurs n'en profitent pas. Les agents de Saescam, Saemap ne sont pas partout dans les 150 sites miniers enregistré et en activité dans le groupement de Baliga. La pluie de ces derniers temps est la cause de l'éboulement en question. Explication de Kalewalelo de la NDC, joint au téléphone à Mulungu.
Les gens font les drains. Ils creusent en amenant de l'eau dans une ligne. En creusant, ils étaient 13 personnes. Il y a eu un incident d'éboulement de la terre et tombé sur les gens. Il y a eu fait du mort et une personne grièvement blessée qui est transportée à l'hôpital à Bujumbura. Maintenant, on a appelé les autres creuseurs pour enlever ces débouts et voir si les autres sont enfermés dans le lit.
Bukavu, Michel Chimami, Radio Okapi.
Les enseignants de la ville de Bandundu dans la province éducationnelle Kwilu 1 maintiennent leur grève et conditionnent la reprise du travail par la réactivation des enseignants désactivés suite à la grève observée depuis le début de l'année scolaire en cours. Pour eux, cette décision du ministre viole la constitution qui prévoit le droit à la grève. Cette décision a été prise hier lundi au cours d'une assemblée générale tenue à la salle de réunion de l'UNTC, Union nationale des travailleurs du Congo à Bandunduville. Du côté des élèves, ils s'inquiètent et demandent au gouvernement de trouver une solution afin de sauver leur éducation. Les détails dans cette correspondance de Irène Boma.
À l'issue de cette assemblée générale tenue lundi 11 octobre à Bandundu, les enseignants de cette ville, chef-lieu du Kwilu, ont décidé de maintenir leur grève malgré l'appel du ministre sectoriel. Cela jusqu'à la réactivation des enseignants qui sont désactivés de la liste des payes à cause de la dite grève. Pour Fiti Lambéi, président urbain de la délégation syndicale des enseignants de Bandundu, cette décision du ministre est anticonstitutionnelle.
Donc le ministre a violé la constitution. La grève, c'est un droit. La grève est maintenue jusqu'à nouvel ordre. Comme il y a les pourparlers avec le gouvernement, qu'on analyse, mais en attendant, nous sommes toujours en grève. Il faut qu'on puisse trouver d'abord une solution de réactiver ceux qu'ils ont désactivés avant qu'on puisse commencer. Si réellement, ils ont la volonté d'aider les enseignants.
Le maintien de cette grève inquiète certains élèves qui appellent le gouvernement à penser à leur éducation.
Vraiment, nos enseignants continuent leur grève. Nous allons faire comment? Les amis du privé ont repris la classe. Nous, on reste toujours à la maison à cause de la grève des enseignants. Que le gouvernement puisse résoudre leurs problèmes pour que nous reprenons le chemin de l'école. Les autorités, ayez pitié de nous. Ne violez pas notre droit à l'éducation. Nous voulons étudier.
Notez que cette grève est aussi maintenue par les enseignants du Kwiludé à Kikwit, a fait savoir le président de l'intersyndical, Benoît Kassiama. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Comment intégrer le genre dans les programmes de développement des partenaires du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, pas des MPME en sigle? C'est à cette question qu'une trentaine de femmes et hommes entrepreneurs vont répondre dans le cadre d'un atelier de formation de 3 jours ici à Kinshasa. Le coup d'envoi des travaux a été donné hier lundi par la représentante résidente d'ONU Femmes en RDC, Madame Awasek, qui avait à ses côtés Alexis Mangala, coordonnateur du projet. Madame Awasek explique pourquoi la donne genre est essentiel dans la promotion des micro, petites et moyennes entreprises. Elle est au micro de Jean-Pierre Elali Ikoko.
Nous sommes ici parce qu'il y a des défis auxquels ces femmes sont confrontées dans l'exercice de leurs activités. Des problèmes au niveau de la création de leur entreprise, au niveau des taxes qui sont appliquées, mais également au niveau du manque de clarté dans certaines dispositions et dans certains processus. Un autre problème, ce sont les abus, parce que certaines de ces femmes, et la plupart, sont actives, mais un peu dans l'informel. Et elles se plaignent souvent des abus auxquels elles sont soumises, y compris même des abus sexuels. Donc nous avons estimé que au démarrage de ce programme, qui est là depuis 3 ans et qui a eu confiance en ONU Femmes pour mettre en œuvre un de ces volets, il nous a paru donc important que nous puissions nous retrouver avec l'unité de coordination, les cadres de l'unité de coordination du programme, les partenaires et toutes les parties prenantes qui sont concernées par la mise en œuvre du volet confié à ONU Femmes pour discuter et mieux comprendre ensemble ce que signifie l'intégration du genre dans le travail du projet.
Province du Maniema, lancement hier lundi des travaux d'entretien routier sur l'axe Kindu-Kibombo au point kilométrique 4 jusqu'au PK 159. Ces travaux financés conjointement par le gouvernement provincial et la dynamique Salon Kalonda à hauteur de plus de 150 000 dollars américains ont été lancés par le gouverneur intérimaire. Ces travaux vont permettre à la commune rurale de Kibombo d'être reliée pour la première fois au chef-lieu de la province. Florence Kizalunga, reportage.
Le début de ces travaux est considéré comme début de la fin d'un calvaire pour les usagers de ces tronçons. Les agriculteurs pensent que leurs produits des champs atteindront rapidement les étalages du marché. L'office des routes qui exécute les travaux donne ici sa fiche technique. Mangadia Kese.
Ce montant prend en compte les deux ponts, le replevillage d'un kilomètre entre les deux ouvrages, ainsi que l'entretien du tronçon Katako-Difumadé. Techniquement, ces travaux consisteront à la suppression des bancs de sable et le reprofilage avec compactage sur un linéaire total de 106 km. La construction des 4 dallos de 100 fois 100.
Pour l'autorité provinciale, l'objectif est d'assurer une connexion entre les territoires et la ville de Kindu. Afan Idrissa.
Nous avons eu le secours de l'ONG Escadela, de Salomon Idi. Notre souci, c'est désenclaver d'abord la province du Maniema, assurer la connexion entre les différents territoires et la ville de Kindu. Parce qu'il y a trop de produits agricoles qui traînent à l'intérieur de la province par faute de routes.
La population souhaite voir la fin des travaux pour avoir une libre circulation. Travaux qui prendront 6 mois. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Parlons dans ce journal du Centre neuropsychopathologique de Kinshasa, le CNPP, le plus grand hôpital psychiatrique de l'Afrique centrale et le deuxième de tout le continent africain, mais aujourd'hui dans un état d'abandon. C'est ce qu'a affirmé à Radio Capi le chef du département de psychiatrie au CNPP dans une interview en marge de la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale. Le professeur Jean Kassoua estime que le problème de santé mentale s'épose avec acuité en RDC, mais ignoré par la population et les gouvernants. Pour lui, les cas de détournement des fonds publics, des drogues dans les milieux des jeunes et de l'abondance des malades mentaux dans la ville prouvent qu'il y a urgence pour le gouvernement de s'occuper du CNPP. Michel Kifindangoy, reportage.
Créé en 1973 par le président Mobutu, le Centre neuropsychopathologique de Kinshasa CNPP est un hôpital construit sur plusieurs hectares au campus de l'Université de Kinshasa. C'est toute une ville d'une vingtaine de bâtiments déjà construits avec une voirie complètement asphaltée. Des milliers d'arbres et de l'herbe y sont plantés pour produire suffisamment d'oxygène. Seulement, une érosion de plus de 20 mètres de profondeur menace fortement les pavillons des enfants à l'intérieur du CNPP. Si, au moment de sa construction, le CNPP était sous tutelle de la présidence qui lui assurait tout le nécessaire et faisait de lui l'un des 4 plus grands hôpitaux psychiatriques au monde, aujourd'hui, le CNPP est totalement abandonné. Tous les matériaux médicaux qui y existent sont vieux de plusieurs dizaines d'années. Le scanner, très utile pour les examens du cerveau, n'existe pas au CNPP. Pour le professeur Jean Kassoua, chef du département de psychiatrie, tous les gestionnaires plongés dans la corruption et les détournements des deniers publics sont des malades mentaux qui doivent être soignés au CNPP. D'où la nécessité pour le gouvernement d'accorder beaucoup plus d'attention à ce patrimoine public.
En bref, célébration ce mardi au siège de l'église kimbanguiste de Nkamba au Congo central de 70 ans de la disparition du prophète Simon Kimbangu ainsi que de la naissance de l'actuel chef spirituel de la dite église en la personne de Simon Kimbangu Kyangani. Pour l'occasion, l'église kimbanguiste organise en ce moment un grand culte en présence du président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Nwemba, et du gouverneur intérimaire Justin Luemba.
Actualité internationale.
Victoire de la Somalie face au Kenya sur le tracé de la frontière maritime. Les deux pays s'affrontent depuis 2014 devant la Cour internationale de justice, une juridiction de l'ONU chargée de régler les différends entre États. En jeu, le tracé de la frontière maritime entre les deux pays et les ressources en gaz et pétrole sur une surface de quelques 100 000 mètres carrés. Les juges ont tranché sur un tracé de la frontière maritime équidistant tel qu'il était réclamé par la Somalie, tout en ajustant légèrement cette ligne en faveur du Kenya. Les juges ont néanmoins rejeté les demandes de réparation de la Somalie. Les prêtres doivent dénoncer les faits de pédocriminalité à la justice, affirme le ministre français de l'Intérieur. Gérard Darmanin a affirmé ce mardi que les prêtres ayant connaissance de crimes contre des enfants de moins de 15 ans devaient porter ces faits de pédocriminalité à la justice et ne pas y opposer le secret de la confession. Il s'exprimait à l'Assemblée nationale juste après avoir reçu en qualité de ministre des cultes le président de la Conférence des évêques de France, qui avait jugé que le secret de la confession était plus fort que les lois de la République et ne pouvait donc pas être brisé.
L'invité.
Notre invité est le docteur Médard Onobaïso, chef d'antenne de l'UNICEF à Beni, au Nord Kivu. Quelques jours seulement après la détection d'un cas de résurgence d'Ebola à Beni, une centaine de contacts ont été signalés par l'équipe de riposte sur le terrain. Comment l'UNICEF et les autres partenaires appuient-ils le gouvernement dans la riposte et quelle est l'ampleur de la maladie dans la zone de santé de Beni? Notre interlocuteur répond à toutes ces questions et à bien d'autres. Il est joint au téléphone par Jean-Pierre Elali Coco.
Docteur Médard Onobaïso, bonjour.
Bonjour.
L'UNICEF a annoncé le déploiement des équipes et équipements médicaux à Beni après que le gouvernement ait confirmé le décès d'un enfant de la maladie à virus Ebola. Alors docteur, comment s'organise actuellement la riposte sur le terrain, notamment l'identification des contacts et la prise en charge d'éventuels cas? Comment ça se passe?
Pour le moment, nous sommes à Beni. Il y a une coordination de la réponse qui est en train de se mettre en place autour du ministère de la Santé. Et à travers cette coordination, la réponse s'organise, comme d'habitude, autour de certains piliers, notamment pour la surveillance, prise en charge et la prévention contre l'infection, la communication des risques, engagement communautaire, les soutiens psychosociaux. Et l'UNICEF appuie le gouvernement à travers certains piliers, notamment au niveau de la communication des risques, engagement communautaire, la prévention contre l'infection, l'hygiène, l'assainissement, soutien psychosocial, la nutrition et la santé. Et c'est dans ce sens que nous sommes en train de déployer près de 168 de matériel qui ont quitté Goma depuis hier et pourront arriver à Beni 24-48 heures pour venir appuyer les gouvernements. Pour ce qui est des contacts, d'identification des contacts, j'ai dit que les ministères de la Santé avec toutes ces équipes, ils sont en train de faire un travail énorme et on a réussi à identifier centaines de contacts qui sont bien localisés, bien répartis dans les différentes aires de santé de la ville de la zone santé de Butembo. Et tout un programme de suivi de ces contacts est en train de se mettre en place afin qu'on puisse détecter à temps des cas suspects qui peuvent se présenter et les orienter pour la prise en charge. Concernant la prise en charge, ce qui est vrai, on est en train de compter sur des acquis de la 10e épidémie. Au niveau de l'hôpital de Beni, il y a déjà un centre de traitement contre Ebola qui existe. Déjà au niveau de l'hôpital, les équipes sont en train de travailler avec certains partenaires, notamment des joints internationales et les agences du thème des Nations Unies pour réhabiliter rapidement ces cliniques de prise en charge, mais aussi au niveau de l'UNICEF, il y a la crèche pour accueillir des enfants qui seront séparés de leur mère déclarée positive d'Ebola.
L'apparition de ces nouveaux cas d'Ebola a créé la peur au sein de la population, selon le reporter du Radio Capi sur place. Quels sont les dispositions prises par l'UNICEF et ses partenaires pour atténuer l'impact psychologique sur la population?
Bon, d'abord, nous pouvons dire que le gouvernement est déjà engagé là-dessus. Hein. Vous avez suivi le message du ministre national de la Santé, mais aussi au niveau sur place dans la ville de Beni, il y a les maires de la ville, il y a les médecins chefs des zones et toute l'équipe et la société civile qui sont déjà en train de faire un travail énorme de sensibiliser la communauté. Notre rôle en tant qu'UNICEF, comme nous travaillons dans le domaine des communications de risque et engagement communautaire, on leur apporte des outils, mais aussi on renforce leur capacité dans l'élaboration du message, dans la promotion des meilleures pratiques, mais aussi dans la diffusion de ces messages. Il est aussi vrai que dans les domaines psychosociaux, nous appuyons la commission psychosociale en renforçant la capacité des acteurs locaux. Il y a des psychologues qui sont sur place, mais il y a aussi des travailleurs parasociaux de la division des affaires sociales ici au niveau des pays qui vont être près de ces populations affectées.
Oui, docteur Médard, est-ce que vous pouvez confirmer qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons avec vous, il n'y a qu'un seul cas, ce même cas qui est décédé, et il n'y a pas de cas éventuels jusque-là?
Oui, que là, il n'y a pas un autre cas. Le seul cas, mais on est entre des groupes de contacts à haut risque et d'autres contacts qui sont autour de ces cas.
Pour terminer, en tant qu'acteur de Ruposte sur le terrain, comment mesurez-vous l'ampleur de cette épidémie par rapport aux épisodes précédents? Pourrait-on la contenir dans un laps de temps?
Bon, je vais juste parler en fonction de l'expérience et de tout ce qu'on a capitalisé par rapport aux réponses passées. Le gouvernement avec ses partenaires est en train de tout mettre en œuvre d'abord pour que cette épidémie s'arrête rapidement, hein, comme ce fut le cas dernièrement en Badaka et à Putembo. Et je peux dire que tout est en fonction de la population, d'abord de la réponse par la communauté. La communauté doit être au centre de tout, hein, tout ce qui est respect des mesures, les peu de résistance, parce qu'à la deuxième épidémie, comme vous savez, il y a eu plusieurs résistances, ce qui fait que ça a retardé parfois certaines interventions. En dehors de la population, la réponse par la communauté, mais il y a aussi la rapidité des interventions. Et ça, ça dépend des ressources disponibles. C'est-à-dire qu'il faut prendre en charge des cas dans les meilleurs délais, il faut isoler les pays, il faut organiser la vaccination, faire les suivis des contacts. Donc tout ça, ça dépend des ressources que nous aurons pour nous permettre de mieux apporter cette réponse.
Docteur Médard Onobaïso, je vous remercie.
Je vous remercie à vous.
Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.